Suite et fin ce vendredi d'une semaine sur la pensée de la philosophe Simone Veil. Après avoir brossé son portrait en compagnie de Laure Adler et Sylvie Veil, après avoir évoqué avec Robert Chenavier ce que Simone Veil dit de la condition ouvrière, après avoir parlé de son engagement politique avec Bertrand Saint-Cernin, de la pesanteur et la grâce avec Florence Delucie et Dominique Bourrel, c'est pour finir du sens que Simone Veil donne à la notion d'enracinement que nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Sylvie Courtine-Denamy qui signe aux éditions du Cerf un livre au titre gariste intitulé « Simone Veil, la quête des racines célestes » et Martin Stephens, qui est notamment l'auteur du dossier qui accompagne les besoins de l'âme, quelques extraits de l'enracinement, paru et mis en perspective dans l'excellente collection Folio Plus Philosophie. L'argent détruit les racines partout où il pénètre, en remplaçant tous les mobiles par le désir de gagner. Il l'emporte sans peine sur les autres mobiles parce qu'il demande un effort d'attention tellement moins grand. Rien n'est si clair et si simple qu'un chiffre. Il est une condition sociale, entièrement et perpétuellement suspendue à l'argent, c'est le salariat. Surtout depuis que le salaire aux pièces oblige chaque ouvrier à avoir l'attention toujours fixée sur le compte des sous. Bonjour Sylvie Courtine-Denamy, bonjour Martin Stephens.
Bonjour
à tous les deux, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. C'est en votre compagnie qu'on va terminer cette semaine consacrée à Simone Veil à l'occasion du centenaire de sa naissance. Les quelques lignes que je viens de lire ici sont extraites de l'enracinement, elle y parle de l'argent. L'argent, dit-elle, comme un facteur de déracinement. Je vous propose de partir, comme on part du milieu, de partir de cette question-là pour essayer de comprendre en retour ce qu'elle entend justement par enracinement. Alors Sylvie Courtine-Denamy, dans quelle mesure Simone Veil fait-elle de l'argent un facteur, l'occasion, la cause de ce qu'elle appelle le déracinement et qu'elle déplore?
C'est un des quatre obstacles à une civilisation meilleure qu'elle appelle de ses voeux, effectivement. Donc l'idolâtrie de l'argent, la dégradation du sentiment de justice en force, identifiée à la force, la fausse grandeur. Et surtout, en tous les cas, c'est ce que je me suis efforcée de souligner dans mon livre, l'absence en nous d'inspiration religieuse. Alors effectivement, l'idolâtrie de l'argent, dès la condition ouvrière, Simone Veil dénonce ces seuls mobiles que sont la peur et les sous chez les ouvriers.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le fait qu'elle voit dans l'argent un facteur de déracinement et en même temps Simone Veil n'est pas révolutionnaire? Il ne s'agit pas pour elle de sortir par exemple du monde du travail, donc j'imagine aussi qu'il ne s'agit pas pour elle de sortir du salariat.
Non, bien sûr que non. Mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'elle n'est pas révolutionnaire. Je pense que l'enracinement appelle à une révolution, mais à une révolution toute spirituelle. Mmh. Et que précisément, elle appelle de ses voeux une élite d'hommes animée par ce qu'elle appelle la pauvreté spirituelle, laquelle passe, entre autres,
par
la véritable pauvreté monétaire, disons.
Donc, vous parlez de révolution spirituelle, mais Martin Stephens, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut employer le terme de révolution quand il s'agit d'une révolution spirituelle? Est-ce qu'une révolution spirituelle peut être une démarche collective? Ou est-ce qu'elle est nécessairement une démarche individuelle? Ou est-ce que peut-être les deux termes restent en tension dans la pensée de Simone Veil?
Oui, vous avez entendu cette semaine qu'effectivement, d'après Simone Veil, une collectivité ne pense pas, le lieu de la pensée et l'individu. Et il s'agit, Simone Veil est une platonicienne, d'une révolution intérieure qui s'appelle une conversion, se tourner vers ce qu'il est juste de penser. Et effectivement, il y a chez Simone Veil une vraie réflexion sur les mobiles, ce qui nous pousse à agir. Et elle remarque qu'il y a un lien très fort entre...
Juste pour bien comprendre et pour l'auditeur, est-ce que ce que vous appelez les mobiles, c'est ce qu'elle appelle les besoins de l'âme?
Non.
Voilà, parce que ça, c'est une distinction importante à ce moment-là, parce qu'elle commence l'enracinement en énumérant justement les besoins de l'âme.
Tout à fait. Dans les mobiles, elle remarque que pendant l'occupation, les gens étaient prêts à faire des queues pour aller chercher un peu de nourriture, alors que jamais les gens ne feraient la queue pour des choses. Il y a deux types de choses, si vous voulez, ce qui s'impose à nous et ce qui se propose à nous. Rien n'est si clair et si simple qu'un chiffre. Un chiffre s'impose à nous. Tout le monde comprend que 1000 est supérieur à 10. Tout le monde comprend que si on gagne 3000 euros, on gagne plus que si on gagne 1100 euros. Donc ça s'impose à nous. À la limite, l'argent contraint notre imagination, alors que le bien, le beau et le vrai ont ce site particulier qu'ils sont des mendiants, dit-elle, qu'ils sont silencieux. Parce qu'il se propose.
Elle parle même de Dieu à un moment, comme d'un mendiant, hein, qui vient nous voir et qui irait mendier, non, Sylvie Courtine de
Lamy? Oui, Dieu est un mendiant qui vient mendier notre consentement.
C'est tout à fait étonnant comme image, quand même. Que signifie ce Dieu mendiant?
Mais le Christ est crucifié parce qu'il n'a fait que se proposer aux hommes, sans s'imposer à eux. Il est la figure.
Oui, mais le mendiant n'est pas celui qui s'offre, le mendiant c'est celui qui demande, non?
Eh bien oui, il demande perpétuellement un peu de notre attention. Simone Veil aimait bien ce moment dans la quête du Graal où Perceval est attentif à un homme et lui demande quel est ton tourment. Eh bien Dieu, dans la figure du pauvre, nous demande sans cesse de lui demander quel est ton tourment.
Sylvie Courtine de Lamy, cette question des besoins de l'âme, revenons un instant là-dessus, sur cette distinction entre les motifs qui nous font agir et ce qu'elle appelle les besoins de l'âme. Quelle est son intention quand, dans l'enracinement, elle énumère ce qui lui semble être les besoins de l'âme?
Substituer à la notion de droit, celle de besoin. En fait, si vous voulez, il faut rappeler tout de même aux auditeurs que l'enracinement est un titre tout à fait valable pour le sujet qui occupe Simone Veil, mais que c'est un titre de Camus. Simone Veil, c'est un ouvrage inachevé que Simone Veil avait intitulé « Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain ». Et dans les écrits de Londres, qui datent de la même année, de 1943, on trouve également une étude concernant les obligations envers l'être humain. Donc c'est l'opposition devoir-droit qui est intéressante effectivement dans ce livre et par laquelle elle commence. Donc elle s'oppose très clairement ici à ceux qu'elle appelle les hommes de 1789, aux révolutionnaires qui ont placé au centre la notion de droit. Alors qu'est-ce qu'elle a contre le droit? Pourquoi est-ce que l'obligation prime à ses yeux sur le droit? Le droit est une notion romaine et revendicatrice. Revendicatrice, commerciale, il y a un aspect quantitatif qui lui déplaît profondément. Et d'autre part, le droit est toujours relatif à des circonstances données. Tandis que c'est ce qui fait que l'obligation prime sur le droit, l'obligation est absolue, inconditionnée.
Alors l'obligation envers les humains est absolue, inconditionnée, et pourtant c'est la même personne qui se flatte, au dire de Sylvie Veil, qui se flatte, mentant en cela d'ailleurs, hein, Simone, il arrivait à Simone Veil de mentir, d'avoir fait fusiller des gens pendant la guerre d'Espagne. Comment concilie-t-elle ses obligations inconditionnées envers tout être humain et la possibilité, alors ponctuelle, hein, on en a parlé avec Bertrand Saint-Cernin, pas toujours, mais la possibilité de la violence? Sylvie Courtine de Lamy.
Simone Veil est effectivement très hostile à la notion de force et de violence, mais elle est également très sensible à la notion d'injustice. Et par conséquent, quand elle décide de rejoindre la colonne du Ruti en 1936 sur les rives de l'Èbre, c'est pour combattre une injustice. Et heureusement qu'elle n'y est pas restée plus longtemps suite à un accident, à un malheureux accident.
Oui, c'est bouillante, oui.
Oui, c'est anecdotique, mais enfin bon, elle met le pied dans une bassine d'huile bouillante. Et je dis heureusement parce que, effectivement, Simone Veil reconnaît en toute franchise qu'elle aurait pu être amenée à tuer. Et c'est à partir de là, me semble-t-il, que se fait un revirement profond en Simone Veil vis-à-vis de la Révolution, vis-à-vis de la lutte armée. Et vis-à-vis de la violence.
Alors, révolution qui, en même temps, ne l'empêchera pas de vouloir s'engager de nouveau ensuite. Puisque...
Révolution au sens marxiste du terme.
C'est-à-dire ?
Non, bah, par opposition à la révolution spirituelle que j'évoquais tout à l'heure.
C'est ça.
Ça n'empêche pas sa volonté de militer, bon, alors entre guillemets, là, si vous voulez, en faveur d'une révolution spirituelle pour inverser les valeurs de la société.
Revenons à ce que vous disiez de la notion d'obligation et de la notion de droit. La notion d'obligation, dit-elle, prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. L'obligation est efficace dès qu'elle est reconnue. Une obligation ne serait-elle reconnue par personne, elle ne perd rien de la plénitude de son être. Un droit qui n'est reconnu par personne n'est pas grand-chose. C'est amusant, on croirait entendre Cocteau dire, ou l'inverse de Cocteau peut-être. Cocteau disait « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Il y a chez Simone Veil, dans cette distinction qu'elle opère entre l'obligation et le droit, l'idée que quelque chose peut exister sans qu'on lui apporte de preuves, non, Martin Stephens ?
Oui, oui, un droit se revendique, une obligation se reconnaît. Et pourquoi l'obligation se reconnaît alors que le droit se revendique ? C'est parce qu'elle a en elle-même sa propre raison d'être. Pour que j'aie des droits, il faut que quelqu'un m'en reconnaisse, c'est-à-dire se reconnaisse obligé envers moi. Et cette condition, elle est extérieure au concept de droit, donc il n'a pas en lui-même sa raison d'être. L'obligation, quant à elle, est absolue. C'est pour cela qu'on aurait dû la mettre...
On ne peut pas ériger le droit en absolu, donc.
Absolument pas. Le droit, elle dit que c'est une notion de second ordre qui n'existe que parce que quelqu'un se reconnaît obligé envers moi. Et l'obligation, dit-elle, est effective dès qu'elle est reconnue. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se reconnaît aucun droit, ou quelqu'un qui ne m'en reconnaît aucun, se met à en avoir dès lors que je me reconnais obligé envers lui. Donc c'est bel et bien, le principe, c'est bel et bien l'obligation, et la conséquence, c'est le droit. Et partir des droits, ce serait comme demander à un élève de tracer une tangente sur un tableau vierge. Il dirait, mais il faut d'abord poser le cercle ou la courbe. Eh bien, il s'agit exactement de la même chose. Ce qui eût dû être principe, c'est bel et bien le devoir, d'où la déclaration des devoirs envers l'être humain.
D'où la déclaration des devoirs, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, qui est donc le sous-titre de l'enracinement, ou peut-être son titre véritable, puisque l'enracinement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Sylvie Courtine de Namy,
oui,
est un titre donné par Albert Camus.
Si je peux rajouter aussi, le reproche que fait Simone Veil à la notion de droit, c'est qu'il lui manque une notion d'amour et de charité. Là, si vous voulez, ce qui oppose le droit et l'obligation, c'est que l'obligation, c'est veiller à ne pas faire de tort à autrui, au lieu que le droit demande qu'on ne me fasse pas tort à moi. Or, toute la question chez Simone Veil est précisément de faire disparaître le moi.
De sorte que Simone Veil serait le penseur efficace d'une société, par exemple la nôtre, où l'on dit une société où le citoyen serait réduit par exemple à l'état d'enfant, où s'enfermerait, c'était le diagnostic de Tocqueville, ça pourrait être pertinent aujourd'hui, un citoyen qui s'enfermerait dans la simple revendication de ses droits. En somme, elle ne pourrait pas se satisfaire d'une société qui se contenterait de garantir les droits de chacun.
Absolument pas.
Martin Stephens.
Effectivement, elle dit que cette confusion conceptuelle, logique, mais qui a un fondement aussi spirituel, mais au départ, il s'agit bel et bien, quand elle dit la notion, donc elle fait une analyse notionnelle, la primauté du concept de devoir sur celui de droit est responsable de la confusion sociale et politique actuelle. Et effectivement,
le mot d'actuel, d'ailleurs, s'applique à toute époque.
Tout à fait, et encore plus peut-être de nos jours. Elle avait senti ce que deviendrait notre société, où il s'agit en effet d'abord de faire reconnaître son droit, donc de s'organiser en lobby, voire, j'ai lu ça récemment, de louer des manifestants sur un site internet, parce que la politique est devenue, si vous voulez, la mentalité du citoyen et quels sont mes droits, quelles sont les stratégies pour les faire reconnaître. Simone Veil dit non, la question c'est j'ai d'abord des devoirs, quels sont les besoins qui sont leur objet.
Mais alors, c'est magnifique, mais est-ce qu'une telle position, vous parlez de notre société actuelle, on pourrait parler de toute société, Tocqueville faisait le même diagnostic dans la première moitié du 19e siècle. Est-ce qu'une position comme la sienne n'est pas une position qui la condamne et qui condamne ses interprètes, ou en tout cas ceux qui se réclament de sa façon de penser, tout simplement déplorer le monde comme il va et le fait que la nature humaine soit exclusivement ou la plupart du temps tournée vers la revendication de ses droits, Sylvie Courtine de Namy. Est-ce qu'en somme Simone Veil ne nous condamne pas à l'impuissance face au monde comme il est? Sylvie Courtine de Namy, vous ne voulez pas répondre? Non. Non. Pourquoi?
Et parce que je ne comprends pas très bien.
Bah, une position qui dit, en somme, le citoyen devrait avoir des obligations avant d'avoir des droits, avant de dire c'est mon droit. Le jour où on aura un monde dans lequel les gens diront je me sens obligé avant de dire c'est mon droit, peut-être que Simone Veil aura une efficacité politique. Est-ce que tant que le citoyen n'est pas capable de se comporter comme ça, les textes de Simone Veil ne nous condamnent pas à déplorer tout simplement le monde comme il est, sans pouvoir agir sur lui?
Mais ça veut dire que vous n'accordez aucun crédit à l'efficace de ces textes?
Mais pas du tout, je vous pose la question. Je vous demande quelle est son efficacité, quelle est l'efficacité de tel texte face tout simplement au réflexe de tout un chacun qui consistera à dire en premier lieu « c'est mon droit ».
Mais c'est comme si on récusait la prééminence d'autrui chez Lévinas. Je veux dire, là il y a un point de contact évident, me semble-t-il, entre les deux, c'est que autrui me précède. Et c'est la même je sens la même chose chez Simone Veil. Les personnes ne s'aviseraient de récuser la position de... Enfin, si on peut, bien sûr.
Mais je ne la récuse pas. J'en conteste pas la sublimité ni l'importance. Je ne la récuse pas. Je m'interroge sur son efficacité. Puisqu'après tout, Simone Veil était quelqu'un qui voulait agir. Elle était soucieuse d'action.
Mais d'accord, mais l'action, ce n'est pas du jour au lendemain. Elle dit de toute façon, ça prendra deux générations, hein, au moins. Et ça implique une transformation en profondeur. C'est pourquoi, excusez-moi, mais j'y reviens tout le temps, à ce terme de révolution spirituelle. Il s'agit effectivement de faire évoluer les esprits et de faire en sorte que ces esprits soient animés par la primauté du bien sur l'argent, par la primauté d'autrui sur l'individualisme. Et ça ne peut se faire que, effectivement, si une élite est capable d'allumer dans le peuple cette inspiration qu'elle appelle de ses voeux. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas réel et actuel que ça n'est pas possible, que ça n'est pas envisageable.
Ça, c'est vous qui le dites. Mais quel argument en faveur... Après tout, vous venez de dire... Tout à l'heure, Martin Stephens disait que la société d'aujourd'hui, qu'elle en avait prévu, d'une certaine façon, les travers, parlant de la société d'aujourd'hui, ce qui prouve que, d'une certaine façon, les choses se sont encore dégradées depuis qu'elle a écrit les textes dont nous parlons aujourd'hui.
Ah, bien évidemment, je pense qu'elle serait absolument horrifiée si elle revenait parmi nous.
Mais alors, donc, j'en reviens à ma question. Que pèse, non pas que vaut, c'est pas la même chose, mais que pèse une philosophie qui, 70 ans après avoir été écrite, d'ailleurs pour elle-même, hein, et publiée à titre posthume, mais que pèse une philosophie qui, aujourd'hui, constaterait encore plus la justesse de son diagnostic et l'impuissance des moyens pour y remédier, Martin Stephens?
Simone Veil ne condamne pas absolument le concept de droit. Elle dit que c'est un concept de second ordre, qu'il est relatif. Et donc, on peut très bien imaginer que des gens qui aident les personnes les plus pauvres à revendiquer leurs droits se reconnaissent d'abord des obligations. Parce qu'effectivement, dans notre mentalité de droit, finalement, les grands oubliés, c'est pour ça que la misère augmente partout dans le monde, les grands oubliés, c'est ceux qui ne peuvent pas revendiquer leurs droits et, par exemple, revendiquer le fait que la misère soit une violation des droits de l'homme. Eh bien, finalement, on pourrait imaginer que quelqu'un qui se tient auprès des personnes exploitées pour, par exemple, dire « Eh bien, on peut aller... au tribunal, un tribunal qui juge en fonction des droits de l'homme pour manifester contre la misère, et bien cette personne-là utiliserait le droit, mais à partir de son obligation.
Les Romains étaient une poignée de fugitifs qui se sont agglomérés artificiellement en une cité. Et ils ont privé les populations méditerranéennes de leur vie propre, de leur patrie, de leurs traditions, de leur passé, à un degré tel que la postérité les a pris sur leurs propres paroles pour les fondateurs de la civilisation sur ces territoires. Les Hébreux étaient des esclaves évadés et ils ont exterminé ou réduit en servitude toutes les populations de Palestine. Les Allemands, au moment où Hitler s'est emparé d'eux, étaient vraiment, comme il le répétait sans cesse, une nation de prolétaires, c'est-à-dire de déracinés. L'humiliation de 1918, l'inflation, l'industrialisation à outrance et surtout l'extrême gravité de la crise de chômage avaient porté chez eux la maladie morale au degré d'acuité qui entraîne l'irresponsabilité. Martin Stephens et Sylvie Courtine Denamy sont nos invités aujourd'hui et pour ce vendredi, pour terminer cette semaine consacrée à la philosophie de Simone Weil. Simone Weil, Sylvie Courtine Denamy, fait de l'enracinement, dit-elle, le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine et de sa méconnaissance et du déracinement, la cause des plus grandes tragédies. Je voudrais savoir que signifie chez elle cette généalogie finalement qu'elle établit entre ce point commun, ces similarités qu'elle observe entre les Romains, les Hébreux et les Allemands sous le Troisième Reich.
Elle a cette phrase qui revient très souvent, qui est déracinée, déracine.
Alors, en quoi les Romains étaient-ils déracinés pour elle?
Je ne sais pas très bien.
C'était un peuple de droit, peut-être? C'était un peuple juridique? Était-ce d'avoir justement...
Ça, on l'a dit tout à l'heure, oui, effectivement, ils sont à l'origine de la notion de droit. Pour les Hébreux, on voit un petit peu mieux ce qu'elle veut dire, encore que la reconstitution de l'histoire par Simone Weil n'est pas toujours très, très convaincante. C'est ce qu'elle dit. Qui est déraciné, déracine, et donc elle s'en prend toujours simultanément aux Romains et aux Hébreux.
Et aux empires coloniaux.
Et aux empires coloniaux, bien sûr. Hitler n'aurait fait que renverser l'idée d'élection qui était soi-disant à l'origine du peuple hébraïque, élection dans laquelle Simone Weil ne veut voir... Enfin, elle dit les Hébreux n'ont été élus que pour être les bourreaux du Christ. C'est une aberration, me semble-t-il.
Martin Stephens.
Oui, je pense que pour ce qui est des Romains, elle remonte de la conséquence à son principe, qui est déraciné, déracine, puisque c'est un peuple qui, partout où il arrive, déracine les peuples qu'il conquiert. Et puisque la conquête avec l'instruction et l'argent fait partie des grands facteurs de déracinement, eh bien, les Romains sont un peuple de déracinés. Et effectivement, on parle d'Hitler, d'après elle, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, que j'ai identifié en relisant l'enracinement. L'enracinement, pour Simone Weil, c'est un certain rapport au monde et une certaine façon d'habiter le monde et de savoir y lire ou bien l'unique règne de la force ou bien autre chose qui soumet la force à une sage persuasion, dit-elle en citant le Timée, et qui fait que la force ne règne pas en maître, comme le pensait Hitler, mais qu'il y a cette limite qui travaille la force de l'intérieur et qui fait que notre monde, finalement, est beau et on peut s'y sentir chez soi. Et Hitler était quelqu'un qui, elle cite une page de Mein Kampf, qui pensait que, il dit, il n'y a qu'à regarder le ciel étoilé pour voir que la force règne en seul maître ici-bas et l'homme ne saurait faire exception. Simone Weil dit, il ne savait pas lire l'univers. Et s'il ne sait pas lire l'univers, c'est parce que nous n'apprenons plus à nos élèves à lire dans l'univers la présence de cette sage persuasion qui donne à toute chose sa limite.
Alors, quelle différence? Alors, vous avez précisé tout à l'heure, vous avez bien fait d'ailleurs, Sylvie Courtine-Denamy, que le titre « L'enracinement » n'était pas de Simone Weil. Néanmoins, elle fait de l'enracinement l'un des besoins fondamentaux de l'âme humaine.
Oui, c'est même le titre de la troisième partie.
Donc il n'est pas douteux, je veux dire que ce soit le cœur. Non, bien sûr, mais que ce soit le cœur de son propos. Deux questions. Qu'est-ce qui distingue chez Simone Veil, donc qui bataille en un sens, ou en tout cas qui dialogue très fermement avec les penseurs du XVIIIe siècle, qu'est-ce qui distingue son goût de l'enracinement d'une forme de romantisme contre-révolutionnaire en vertu duquel l'humanité véritable est d'abord particularisée, incarnée, située quelque part, c'est-à-dire en somme le sens qu'on assigne en général à la notion d'enracinement, hein, être enraciné, c'est être quelque part, être quelqu'un parce qu'on est quelque part. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, qu'est-ce que Simone Veil pourrait répondre à ceux qui font, par exemple, du déracinement? Je pense à Cioran, là, qui n'était peut-être pas philosophe aux yeux de certains, mais pourquoi pas, qui font du déracinement, justement, le point de départ de la pensée et le début d'une aptitude à penser selon l'autre, d'une aptitude à l'altérité. Mais d'abord, qu'est-ce qui la distingue d'une pensée tout simplement contre-révolutionnaire, particularisée, incarnée? Sylvie Courtine-Denamy.
Je ne comprends pas votre question, Raphaël.
Vous ne voyez pas la différence entre le propos contre-révolutionnaire? Mettons Joseph de Maistre qui dit qu'il n'y a pas d'homme en général, il y a des Italiens, des Français, des Anglais. J'ai jamais croisé l'homme en général. Qu'est-ce qui distingue Simone Veil, philosophe de l'enracinement, d'une position comme celle-là?
Je ne sais pas.
Ou de Maurice Barrès,
par exemple.
Qui les déracinait. Ce qui la distingue, c'est qu'il y a cette dimension cosmique de l'enracinement que je rappelais. Et il faut distinguer deux choses. C'est l'enracinement dans une collectivité, mais la collectivité, pour elle, n'est jamais un but, n'est jamais qu'un moyen en vue d'être enraciné dans, finalement, ce qui nourrit véritablement l'homme, c'est-à-dire le beau, le bien et le vrai. Ce qui va distinguer une Simone Veil de Herder ou de Maurice Barrès ou de Joseph de Maistre, bon, en espérant que je ne déforme pas leur pensée, mais c'est que finalement, pour elle, l'enracinement dans une collectivité s'entend toujours, non pas comme un but, mais comme un moyen de nous permettre de nous nourrir à la source de l'essentiel.
Ce que vous appelez la source de l'essentiel, on travaille toute cette semaine hein, autour de la pensée de Simone Veil, autour de ces deux éléments qui sont d'un côté la rugosité du réel et de l'autre côté ce qu'elle désigne peut-être, alors je ne sais pas si le mot est le bon ici, comme le surnaturel ou une réalité du surnaturel, je ne sais pas, enfin en gros entre d'un côté l'inconfort qu'elle appelle de ses voeux et de l'autre côté un Dieu qui la trouve. Est-ce que c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre par exemple ce qu'elle dit dans l'enracinement de la contemplation des œuvres d'art, un texte presque platonicien ou schopenhauerien où l'œuvre d'art semble nous abstraire finalement de quelque chose. Est-ce qu'on peut parler ici d'enracinement, Sylvie Courtine-Denamy?
Oui, enfin la contemplation de la beauté du monde nous rapproche, c'est évident chez Simone Veil, de Dieu.
On va entendre le texte en question.
La contemplation des œuvres d'art authentiques et bien davantage encore celle de la beauté du monde, et bien davantage encore celle du bien inconnu auquel nous aspirons, peut nous soutenir dans l'effort de penser continuellement à l'ordre humain qui doit être notre premier objet. Les grands fauteurs de violence se sont encouragés eux-mêmes en considérant comment la force mécanique, aveugle, est souveraine dans tout l'univers. En regardant le monde mieux qu'ils ne font, nous trouverons un encouragement plus grand si nous considérons comment les forces aveugles innombrables sont limitées, combinées en un équilibre, amenées à concourir à une unité par quelque chose que nous ne comprenons pas mais que nous aimons et que nous nommons la beauté.
Si nous gardons sans cesse présente à l'esprit la pensée d'un ordre humain véritable, si nous y pensons comme à un objet auquel on doit le sacrifice total quand l'occasion s'en présente, nous serons dans la situation d'un homme qui marche dans la nuit, sans guide, mais en pensant sans cesse à la direction qu'il veut suivre. Pour un tel voyageur, il y a une grande espérance. Cet ordre est le premier des besoins. Il est même au-dessus des besoins proprement dits.
Thank you.
Martin Stephens et Sylvie Courtine-Denamy sont nos invités aujourd'hui pour terminer cette semaine sur Simone Veil, sur et autour de la pensée de Simone Veil. On a dit tout à l'heure, on a distingué le droit, l'obligation et le besoin. Que signifie chez elle cet au-delà du besoin que désigne ou auquel nous conduit la contemplation des œuvres d'art, Sylvie Courtine-Denamy?
Mais c'est Dieu, c'est évidemment Dieu. La contemplation des œuvres d'art...
Elle n'en a pas besoin, on ne peut pas parler d'un besoin de Dieu, par exemple, ou d'une soif de Dieu chez elle.
Si, tout à fait.
Mais donc, dans quelle mesure nous conduit-il au-delà?
Non, il nous conduit au-delà de la réalité de ce monde. Il y a une autre réalité au-delà de ce monde.
Et au-delà donc du besoin que ce monde implique.
Oui.
Alors, comment expliquer que quelqu'un qui recherche l'inconfort, qui refuse de dormir dans un lit, qui dormait par terre, au dire de ses biographes, comment expliquer que cette personne-là soit, par ailleurs, constamment nostalgique, finalement, d'un au-delà de ce monde? Comment peut-elle simultanément rechercher la rugosité du monde, je crois que l'expression est d'elle, et un ordre qui transcende, finalement, cette réalité? Martin Stephens.
Alors, c'est vrai que Simone Veil a ce côté que, qu'on pourrait qualifier d'un peu martyr, d'aller toujours à la plus grande douleur pour entrer en contact avec la réalité. Ceci étant dit, a préféré entre cette personnalité, celle qui consiste, comme elle dit dans l'enracinement, qui consiste en toujours vouloir faire du bruit pour faire parler de soi. Bon, je ne sais pas, même si on... Bon, c'est une question, effectivement. Pour elle, cet ordre dont le très beau texte que vous avez lu parle, cet ordre-là, c'est, pour elle, c'est l'espoir que l'absolu puisse ici-bas être compatible avec l'absolu. C'est-à-dire que si il faut poser d'abord l'obligation, eh bien...
Donc ça n'est pas une alternative pour elle.
C'est-à-dire que... pour elle, ce qui est premier, ce qui est absolu, ce qui est irréfutable, c'est l'obligation qui nous lie à autrui, qui fait qu'autrui nous est confié. Mais elle remarque, elle le remarque en 39, les obligations peuvent entrer en contradiction. En 39, elle doit bien s'engager à tuer, ou les Français doivent s'engager à tuer des Allemands, pour défendre leur pays, leur patrie, et puis pour combattre le nazisme. Ils sont bien dans la posture de devoir... nier une obligation, ou plutôt sacrifier une obligation pour en accomplir une autre. Et pour Simone Veil, elle dit, mais finalement, la politique, c'est l'art d'harmoniser nos obligations. On peut mesurer la santé politique d'un pays au nombre de situations dans lesquelles nous sommes obligés de sacrifier un devoir pour en accomplir un autre. C'est-à-dire que plus le pays va bien, moi, je suis obligé de renoncer à une obligation pour en accomplir une autre. Et le pire étant la guerre civile, où je suis sans cesse obligé de tuer pour défendre les miens, c'est-à-dire de sacrifier un devoir pour en accomplir un autre. Et d'après Simone Veil, la contemplation du ciel étoilé, la contemplation de l'œuvre d'art et la contemplation de notre désir du bien nous donnent l'espoir que, ici-bas, on puisse créer un ordre politique où le bien s'accorde avec le bien.
Où le bien s'accorde avec le bien,
oui.
Vous diriez.
Où le bien sous la forme de l'obligation s'accorde avec... Ou si vous voulez, nous n'avons plus jamais affaire à cette situation tragique qui consiste à renoncer à un devoir.
Sylvie,
oui,
continue
l'ordre, l'ordre, c'est la compatibilité entre les différentes obligations. Elle dit que c'est extrêmement difficile à atteindre. Mais pour un petit peu juste compléter ce que Martin vient de dire, je pense qu'il faut rappeler que d'après Simone Veil, enfin en tous les cas d'après ce que j'ai compris de cette lecture de l'enracinement, c'est pas les hommes politiques qui sont capables de faire advenir cette inspiration qu'elle appelle de ses voeux et cette révolution spirituelle. Hein. Elle parle bien de génie et de saint. Mais... Il faut des génies et des saints qui ne soient pas à l'abri d'un couvent, mais qui soient mêlés à la masse des malheureux. C'est pourquoi je trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre la rugosité de la vie qu'elle s'impose, parce que peut-être que c'est elle la première de ce génie ou la première de ce saint. Enfin, je veux dire, peut-être qu'elle en fournit l'exemple, ou de par sa vie, de par le fait effectivement qu'elle... qu'elle assume la condition des malheureux jusque dans sa chair, alors que ce soit en étant travailleuse agricole ou bien en allant pendant 8 mois à l'usine, ou bien encore plus tôt quand elle donne sa paie de professeur aux chômeurs. Je veux dire, c'est cet exemple-là qu'elle... C'est en donnant l'exemple qu'elle nous montre. Alors on peut ne pas du tout acquiescer, ne pas être d'accord du tout avec ce chemin qu'elle propose.
On peut pas être en désaccord avec une telle forme de sincérité. On peut pas. Alors de mauvais esprit pourrait y voir du masochisme, mais on ne peut pas être en désaccord avec l'aptitude qui est la sienne à souffrir des douleurs d'autrui. Après tout, Rousseau l'avait théorisé, Camus n'en faisait pas moins, Bergson le pensait aussi.
Non, mais c'est parce que la souffrance est. Moi, je parlerai pas de masochisme, mais la souffrance et le malheur, elle le dit très clairement, sont la seule voie qui conduit à Dieu.
Elle les distingue pourtant, souffrance et malheur. Ça n'est pas tout à fait la même chose.
Oui,
chez elle,
souffrance, mal, malheur. Enfin bon, y compris la souffrance physique. Y compris, elle a d'abord rencontré sous la forme de la souffrance physique avec ses maux de tête infinis.
Mais alors, comment comprendre ? J'ai le souvenir d'un texte, mais je ne sais plus où il se trouve. J'ai le souvenir d'un texte dans lequel elle dit, vous allez me rappeler tout ça, dans lequel elle dit que nous manquons de mesure en toute chose. Nous manquons de mesure et que c'est la raison de bien des dérèglements ou de bien des tragédies. Comment concilier ? D'ailleurs, le faut-il ? Ce regret de la mesure et ce goût de l'absolu, Sylvie Courtine de Namy.
Je vois pas la citation à laquelle vous faites allusion. Je pense que celle qui me vient à l'esprit, c'est plutôt la folie du siècle viendrait de l'absence d'amour. C'est un siècle sans amour.
Elle en fait le propre de ce siècle-là, oui. Martin Stephens.
Enfin, de l'époque, en tout cas, de l'époque qu'elle est en train de vivre.
Oui, et pour lier ce manque d'amour à l'absolu et à la mesure, mais de toute façon, l'absolu, c'est ce qui... L'absolu ne s'oppose pas à la mesure. Platon dit dans les lois, Dieu est la mesure de toute chose, par opposition à l'homme, qui n'est pas la mesure de toute chose. Et effectivement, l'absolu, c'est ce qui nous permet de mesurer notre degré d'avancement dans notre vie. C'est l'astre qui permet de nous donner le nord et donc notre orientation.
Amour m'a dit d'entrer, mon âme a reculé, pleine de poussière et péché. Mais amour aux yeux vifs, en me voyant faiblir de plus en plus le seuil passé, se rapprocha de moi et doucement s'enquit si quelque chose me manquait. Un autre, répondis-je, digne d'être ici. Or, dit amour, ce sera toi. Moi, le sans-cœur, le très ingrat. Oh mon aimé, je ne puis pas te regarder. Amour, en souriant, prit ma main et me dit, qui donc fit les yeux sinon moi ? Oui, mais j'ai souillé les miens, Seigneur. Que ma honte s'en aille où elle a mérité. Ne sais-tu pas, dit amour, qui a porté la faute ? Lors, mon aimé, je veux servir. Assieds-toi, dit amour, goûte ma nourriture. Ainsi, j'ai pris place et mangé. Que signifie, Sylvie Courtine de Namy, ce texte qu'elle met à la fin d'une lettre à Joe Bousquet, ce texte de George Herbert, lu ici dans une traduction de Jean Mambrino? Pourquoi aimait-elle ce texte ?
C'est un texte qu'elle a découvert, je crois, en 1938 à Solesmes, alors qu'elle participait aux offices de la Pâque et qu'elle souffrait énormément.
Oui, c'est sa deuxième expérience, son deuxième contact, dit-elle, avec le catholicisme. Et donc ?
Oui. Et elle s'est aperçue que ce poème avait sur elle une vertu apaisante sur ses souffrances physiques et qu'il avait la vertu d'une prière. Elle le cite, elle se le remémore et elle se le récite à plusieurs reprises, de même qu'elle faisait du pater lorsqu'elle coupait les raisins dans la vigne.
Elle avait un rapport tout à fait particulier à la liturgie, à l'utilisation des prières et aux pratiques religieuses de façon générale, non ?
Je crois qu'elle s'est mise à prier assez tard, finalement. De toute façon, si on peut le rappeler, elle dit bien... elle dit avoir grandi, être née et avoir grandi dans le christianisme sans pour autant avoir reçu aucune éducation religieuse, ni de cette sorte, ni judaïque. Mais tout simplement parce qu'elle pensait que, spontanément, elle pratiquait un certain nombre de vertus qu'elle attribue au christianisme, comme la charité, la pureté, le désir de vérité, etc. Mais elle n'a jamais lu de mystique, elle n'est jamais rentrée dans une église, elle n'est jamais allée à la messe, jusqu'au premier contact avec le christianisme, c'est-à-dire à la sortie de l'usine, et c'est peut-être pas un hasard, puisque ce premier contact a lieu en 35, si je me souviens bien, dans un village au Portugal, où elle entend des pêcheurs chanter des cantiques infiniment tristes et qui la touchent profondément. Et le deuxième contact, est à Assise, je crois, 2 ans plus tard. Alors là aussi, c'est intéressant de noter que c'est à la sortie d'une expérience douloureuse, à la sortie de l'expérience physiquement très douloureuse et très éprouvante de l'expérience agricole. Donc c'est toujours au sortir d'une expérience du malheur qu'elle rencontre le christianisme, qu'elle évoque en disant « c'est la religion des esclaves, j'ai senti que je ne pouvais pas ne pas y appartenir ».
Je voudrais qu'on revienne à la question de l'enracinement ou même du déracinement et à cet étrange patriotisme qui est le sien. Ce serait presque mentir par omission à nos auditeurs que de ne pas l'évoquer. On a parlé tout à l'heure de la décolonisation. Est-ce qu'on peut dire que Simone Veil était patriote, Martin Stephens? Et en quel sens peut-on le dire plus exactement?
Elle est patriote. Alors, on peut distinguer rapidement le nationalisme qui consiste à vouloir que les autres nations nous préfèrent à elles-mêmes, et le patriotisme où on conçoit assez bien que chaque homme aime son pays parce qu'il a une dette vis-à-vis de son pays. C'est aussi peu choquant, et je prends ça à une amie vélienne qui vient du Japon, qui fait partie de l'association pour l'étude de la pensée de Simone Veil, qui s'appelle Mimiko Shibata, et qui dit que chaque maman trouve que son bébé c'est le plus beau du monde. Et que
elle n'est pas la seule à dire ça, hein. Voilà, ni à le penser, mais allez-y, ouais. Allez-y.
Et qu'on serait choqué, au contraire, si une maman, entendant cela, disait « Ah oui, en effet, votre bébé, c'est le plus beau du monde ». Et on peut imaginer que le patriotique, c'est celui qui pense que sa patrie a à être la plus belle du monde. C'est aussi un programme, et il peut le penser sans nourrir une haine pour les autres nations. Mais c'est sûr que pour elle, la France doit renouer avec son génie, et ce génie n'est pas fait d'œuvres exclusivement françaises, bien au contraire. Elle dit qu'il faut s'abreuver à la source de Giotto, alors de Racine, des cantiques de François d'Assise. Et c'est là que la France retrouvera son génie, qui est d'être une lumière pour les autres peuples, en tant qu'il a peut-être régné en France déjà cette idée d'une primauté de l'obligation sur le droit.
Il est facile de dire, comme Lamartine, « Ma patrie est partout où rayonne la France. La vérité, c'est mon pays. Malheureusement, cela n'aurait un sens que si France et vérité étaient des mots équivalents. » Un peu plus loin, elle dit, « La vocation universelle de la France ne peut pas, à moins de mensonges, être évoquée avec une fierté sans mélange. Si l'on ment, on la trahit dans les mots mêmes par lesquels on l'évoque. » Si l'on se souvient de la vérité, la honte doit toujours se mêler à la fierté, car il y a eu quelque chose de gênant dans tous les exemples historiques qu'on peut en fournir. De sorte que, est-ce qu'on peut considérer que la nation, qui pour elle est l'autre nom de la patrie, elle dit la patrie est l'autre nom de la nation, ce sont des termes synonymes, est-ce qu'on peut considérer finalement que cette nation, cette grandeur nationale, est pour elle un antidote à la volonté d'avoir un empire colonial? Sylvie Courtine de Namy.
Je crois qu'il ne faut pas parler de grandeur nationale précisément. Elle appelle de ses voeux le renouveau de la patrie. Enfin, je veux dire, elle a été humiliée par la défaite, humiliée par l'armistice. Elle considère que chacun d'entre nous en porte la responsabilité. Et elle appelle donc à un renouveau de la patrie pour lutter contre l'idolâtrie de l'État. L'État est un monstre froid, métallique, dit-elle.
L'État est une chose froide qui ne peut pas être aimée, mais il tue et abolit tout ce qui pourrait l'être. Ainsi, on est forcé de l'aimer parce qu'il n'y a que lui.
Mmh. Oui, oui.
Étrange, ça aussi.
Il n'y a plus que lui.
Oui.
Il n'y a plus que lui. Et
elle dit ensuite, c'est un supplice moral. Hein. C'est le supplice
elle
moral de nos contemporains.
Elle fait remonter cette idolâtrie de l'État à Richelieu, à Louis XIV, l'État c'est moi. Et elle trouve ça absolument tragique. Et il y a un texte très important, je crois, pour la notion de patrie chez Simone Veil. C'est Venise sauvée, sa tragédie en trois actes. On voit très bien comment Jaffié, l'un de ceux qui faisait partie du complot des Espagnols pour annihiler Venise, qui était à l'époque une république libre, on voit très bien comment cet exilé, finalement, se désolidarise de ses acolytes, dénonce la conspiration au Conseil des Dix, et tout ceci en vertu d'une vertu, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est mal dit, la vertu de compassion pour la beauté de Venise. Et c'est cette vertu de compassion sur laquelle Simone Veil insiste beaucoup en la mettant en relation avec la notion de patrie. La vertu de compassion ne fait pas partie de l'État. Ceci dit, on peut la critiquer, Simone Veil. Je ne suis pas sûre que la compassion soit un mobile politique bien efficace.
Elle dit, hein, et elle compare d'ailleurs la politique et les autres arts. Elle va même jusqu'à comparer la politique et la poésie, Martin Stephens.
Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la politique est l'art d'harmoniser les différentes obligations qui se proposent, mais de façon absolue à l'homme. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'un poème, sinon une belle composition ? Et l'art politique, qui est méprisé sous la forme « prendre et conserver le pouvoir », au contraire, pour elle, l'art politique consiste à créer ce monde où, comme elle dit, hein, l'ordre, j'ai la définition sous les yeux, c'est un tissu de relations sociales tel que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations. Et en cela, effectivement, il s'agit de trouver une composition qui emprunte à la poésie son modèle.
La politique a une affinité très étroite avec l'art, avec des arts tels que poésie, la musique, l'architecture. La composition simultanée sur plusieurs plans est la loi de la création artistique et en fait la difficulté. Un poète, dans l'arrangement des mots et le choix de chaque mot, doit tenir compte simultanément de 5 ou 6 plans de composition au moins. Les règles de la versification, nombre de syllabes et rimes dans la forme de poème qu'il a adopté, la coordination grammaticale, etc. etc. Ensuite, elle parle d'inspiration. Et elle termine en disant « La politique, elle aussi, est un art gouverné par la composition sur plans multiples. Quiconque se trouve avoir des responsabilités politiques, s'il a en lui la faim et la soif de la justice, doit désirer recevoir cette faculté de composition sur plans multiples et par suite doit infailliblement la recevoir avec le temps. » Quatre obstacles nous séparent d'une forme de civilisation susceptible de valoir quelque chose, notre conception fausse de la grandeur, la dégradation du sentiment de la justice, notre idolâtrie de l'argent et l'absence en nous d'inspiration religieuse. On a commencé l'émission par cette phrase que vous citiez, Sylvie Courtine-Denamy. On va la terminer et on va terminer également cette semaine sur cette sentence. Merci à tous les deux, Sylvie Courtine-Denamy et Martin Stephens. Sylvie Courtine-Denamy, je signale alors de vous deux livres. D'abord, celui que vous venez de publier hein, sur Simone Veil. Simone Veil, La quête des racines célestes, aux éditions du Cerf, dans la collection La nuit surveillée, en 2009. Et Écoute Nathan, une promenade en Eretz Israël, paru chez L'Harmattan. Martin Stephens, j'ai plaisir à signaler un petit volume très utile, dont vous citez les besoins de l'âme, donc extrait de l'enracinement. Vous faites le dossier, de ce petit volume dans l'excellente collection Folio Plus Philosophie. Et vous avez publié également Prier 15 jours avec Simone Veil, tout un programme aux éditions de La Nouvelle Cité.